Actu SF, les podcasts.
Alors, donc vous êtes tous lecteurs, j'imagine, de ces auteurs qui sont là. Donc on a Rod Marty au bout là-bas, voilà. Jean-Laurent Del Socorro et Estelle Faye. Voilà. Alors, pour démarrer un petit peu, plutôt que de les présenter, je sais pas, j'imagine que vous avez déjà dû chercher un petit peu qui ils étaient. On va se remettre un petit peu dans leur texte, donc avec un petit extrait pour commencer. Alors Estelle, moi, dans Les Seigneurs de Bohème, donc le roman qui était à la sélection, j'avais envie de lire un petit passage qui concerne Maëve. On dit Maëve ? Maëve avançait sur la grève d'un pas chaloupé de danseuse. Ses pieds nus suivaient l'une des lignes courbes que la mer, en se retirant, avait tracées sur le platin. Sous ses orteils, à chaque pression sur la plage, naissaient d'éphémères fleurs de sel. Les fragiles cristaux blancs s'élançaient en volutes gracieuses sur les ondulations du sable pour se dissoudre presque aussitôt au contact de sa surface humide. Car Maëve était une morgaine. Elle maîtrisait les pouvoirs du sel. Ce qui, concrètement, signifiait qu'elle extrayait par un simple toucher le sel présent dans l'océan et sur les rivages. Et si elle se concentrait, elle réussissait à invoquer à partir de rien des poignées de sel. Certes, on voyait souvent plus impressionnant ou plus utile parmi les morgaines. Lantane, pour n'évoquer qu'elle, possédait un don de double vue et elle commandait aux vagues et aux vents. Alors ce petit extrait me plaît bien parce que dans Les Seigneurs de Bohème, donc il y a de multiples personnages et celle-ci, Maëve, est particulièrement touchante. Et hier, j'ai eu la chance d'écouter déjà un petit peu Estelle parler du fait qu'elle choisissait des personnages, des petits personnages, des personnages qui voilà ont juste un pouvoir de créer du sel et puis en même temps qui ont finalement la possibilité de faire changer, faire bouger vraiment les choses. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui te parle, là, en rencontrant des lycéens, de leur parler de personnages peut-être un peu plus proches d'eux, parce que des personnages assez simples?
Oui, alors, ça va faire un peu répétition par moment pour ceux qui étaient là avant. Je vous présente mes plus plates excuses d'emblée. Et voilà, c'est vraiment l'une des bases de Bohème, c'est de parler de ces petits gens, de ceux qu'on n'attend pas comme héros et qui eux-mêmes ne s'attendaient pas à devenir des héros et qui vont changer le monde. Bohème, c'est un nom qui voit la fin d'un empire, c'est dit d'emblée. Et en fait, tout l'enjeu et tout le suspense, j'espère qu'il y a du suspense, c'est de voir comment cette fin d'empire va arriver. Et donc pour ça, je me suis documentée sur beaucoup de fins d'empire réelles. Et il y a une chose qui est commune à toutes ces fins d'empire, c'est que personne, vraiment, dans les grands dirigeants, ne voyait arriver cette fin. Personne ne s'est dit « Oups, là, on est peut-être en train de mourir ». Faudrait qu'on fasse quelque chose. Non. Et ensuite, l'histoire avec un grand H est aussi un de mes grands centres d'intérêt. Simplement, j'ai eu l'impression, quand j'étais jeune, de vivre entre deux histoires. Celle qu'on m'enseignait à l'école, qui était l'histoire des grands hommes, qui déjà avaient une grosse tendance à être tous des hommes, ou presque, qui étaient souvent nés au bon endroit, qui étaient des rois, qui étaient des généraux. Comme s'il n'y avait que, en fait, dans ce qu'on m'apprenait en cours, qui pouvait faire bouger le monde. Comme si moi, déjà, ou mes amis, ou mes proches, ou ceux qui étaient au même point que moi, de toute manière, c'était perdu d'avance, on n'aurait jamais aucune influence sur les choses. Que quelque part, c'était même pas la peine un jour qu'on essaye de se battre, parce que, c'était pas notre place. Et d'un autre côté, par ma famille au début, et ensuite par mes goûts personnels, j'ai découvert d'autres histoires. J'ai découvert les histoires justement des petites gens qui ont fait bouger les choses. Donc les histoires des grandes grèves de porcelainiers de 1905, ouais, c'est beaucoup moins connu que Louis XIV à la base. Mais mine de rien, c'est l'un des premiers, ça fait partie des premiers grands mouvements de grève du XXe siècle. Et effectivement, ça a contribué à faire changer l'image déjà de la classe ouvrière. Et même s'ils n'ont pas eu beaucoup d'avancées à ce moment-là, ils ont marqué l'histoire. L'histoire de la Commune de Paris, l'histoire aussi... Donc des ouvriers du livre qui, mine de rien, au XIXe siècle, étaient des ouvriers mais savaient lire et ont vraiment été cette base populaire qui a fait que les révolutions étaient prises en main au XIXe siècle aussi par le peuple qui avait accès à la culture grâce à ça. Donc voilà, il y a plein d'histoires où finalement on voit que le peuple, que les petites gens se sont pris en main dans la vraie vie pour faire changer les choses. Et c'est ça aussi que j'avais envie de défendre. C'était cette idée que c'est pas parce qu'on n'est pas né au bon endroit, entre guillemets, qu'il faut se dire par avance que de toute manière, quoi qu'on fasse, c'est inutile. Ça, c'est quelque chose que je vois un peu trop dans ma génération. Donc voilà, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui, de toute manière, se disent « Bon, bah moi, je fais ma maison, je fais mon jardin, mais je vais pas essayer de faire bouger les choses parce que, de toute manière, on voit bien que de nos jours, c'est les grandes multinationales, c'est les grands banquiers qui dirigent le monde et moi, je peux rien faire à mon niveau. » Et j'avais envie un peu de secouer tout ça aussi avec... avec Bohen et de dire bah si vous aussi vous pouvez faire quelque chose à votre niveau ou au moins vous pouvez essayer. Et tous ceux qui essayeront n'arriveront pas à faire quelque chose sans doute. Mais parmi tous ceux qui essayent, il y en a aussi qui arriveront et finalement c'est ceux-là qui feront bouger l'histoire.
Merci beaucoup. Jean-Laurent Del Socorro, donc toi tu as été dans la sélection avec Boudica. Et dans ce texte, il me semble qu'il y a aussi une résonance par rapport à ce que peut dire Estelle. Et, ah super, on a Loïc, c'est bon. Donc Loïc Le Borgne. et du coup, il y a un passage pareil. Je commence aussi par cette lecture. Il y a un petit passage qui me semble pouvoir nous aider à résoudre cette question de quelle est, toi, ta place et quelle importance ça avait avec Boudica de parler aux lycéens, d'écrire pour les lycéens. Alors, Atrébat, Belgas, Dobnes, Catuvelone, Brigante, Dunome, Régance, Cantias, Durotrige, Trinovante et Hyssen. 11 clans qui s'incarnent en autant de reines et de rois qui arrivent peu à peu sur nos terres. La veille de la rencontre, mon père m'emmène sur les remparts de la ville. Sais-tu où nous sommes, Boudica ? Quel Hyssen ignore l'histoire de la colline qui marque l'entrée de notre territoire ? Gog Magog, le tombeau des deux géants terrassés par la déesse Epona. Et sais-tu pourquoi j'ai choisi d'établir notre nouvelle capitale ici, plutôt qu'à Vanta ? Je hausse les épaules sans répondre. Mon père s'en irrite instantanément. Cet endroit est un lieu de légende, Boudica. Ici, une de nos déesses a triomphé, alors que rien ne laissait présager de sa victoire. Comprends-tu ? Nous devons rappeler aux autres clans que les Hyssènes sont glorieux depuis toujours. Nous ne sommes pas faibles. Je ne suis pas sûre de savoir ce qui il cherche à convaincre quand il enchaîne. Tu ne seras pas qu'une future reine. Tu seras un symbole pour tout le peuple hyssène, celui d'un clan insoumis. J'ai commencé à tenir ma première alliance il y a quelques jours à peine. Je n'ai terrassé aucun géant. Comment veut-il que j'incarne quoi que ce soit ? Père, je ne comprends pas. Alors dans ce passage, voilà, je me disais, qu'est-ce que tu transmets avec ce livre-là à des lycéens, des jeunes gens encore en devenir ?
Bonjour. Donc, je pense que l'extrait que tu lis est très très bien choisi. Effectivement, c'est avant tout, et je rejoins Estelle par rapport à l'approche littéraire sur plusieurs points, et celui-là en particulier. On est certes avec une reine, mais au début, elle n'est pas reine. Au début, elle est juste quelqu'un, comme vous et moi, avec un héritage, avec des attentes qui sont mises par d'autres, là par son père, des obligations, qui soient politiques ou familiales. Bref, c'est quelqu'un qui se construit. C'est quelqu'un qui va se construire d'emblée, dès sa jeunesse, avec ce qu'elle est, avec des problématiques adultes qui vont arriver très vite dans sa vie. Et elle se pose des questions. Et dans tout ça, elle veut juste... trouver son identité, trouver sa place et à la fois grandir sereinement. Et finalement, c'est un peu une question, j'allais dire, le mot est fort, mais il y a quelque chose d'universel. Quand on est sur le passage vers l'âge adulte, qu'on soit adulte aujourd'hui ou qu'on le devient aujourd'hui, ces questions-là, on les a eues. C'est-à-dire... est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est des questions qu'on veut de moi ? Est-ce que on projette des choses sur moi pour que je le devienne ? C'est le problème qu'a Boudica. Est-ce qu'elle a envie ? On lui dit tu dois être fort, tu dois être une héroïne, tu dois être un symbole. Elle veut juste exister, elle veut juste être une femme, avoir des amours, une vie. Évidemment qu'on soit fier d'elle, avoir des réalisations, mais peut-être pas ceux des autres. Donc c'est finalement une question très banale, très contemporaine. Et à travers le livre, et c'est là où je disais je rejoins Estelle, il y a trois grands thèmes qui traversent un peu les récits. Le livre commence par Il n'y a pas de hasard, il y a seulement des destins que l'on choisit d'incarner. Et comme Estelle le disait, on a le droit à l'échec. Ce n'est pas un problème de rater quelque chose. Par contre, on n'a peut-être pas le droit de ne pas tenter d'essayer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut essayer les choses. Après, on rate. Hein, on a tous peur de l'échec, mais on a le droit à l'échec. Et sur les éléments qu'elle avançait aussi, Boudica, ce n'était pas un roman que je voulais écrire tout de suite. Je suis tombé vraiment par hasard. Je travaillais sur un autre texte à l'époque. Et c'était une personnalité féminine historique tellement incroyable que j'ai voulu, voilà, toute proportion gardée, un peu lui rendre hommage, la mettre en avant. En France, elle est très peu connue. Et mettre en avant un personnage féminin fort, historique, et j'espère pas manichéen ou stéréotypé, en fait, aussi, effectivement. Là aussi, je rejoins Estelle sur parfois les images, l'imagerie qu'on a, ça change très vite, hein, heureusement, mais les personnages féminins sont parfois un peu encore aujourd'hui des clichés dans certains romans. Donc voilà, c'était parler de problématiques d'aujourd'hui, de la place de la femme, d'une adolescente qui cherche sa place tout simplement dans sa vie, qui cherche pas à devenir une légende, et d'une femme à l'égal de tous les autres.
Merci. Alors avec La Mère des Eaux, Rod, on n'est plus dans l'histoire, on est au contraire dans un quotidien assez proche de nous. Alors évidemment, tu nous transportes aux États-Unis, donc il y a un côté des paysans, mais c'est surtout, il me semble, on va voir dans ce petit passage que j'ai choisi, le voyage vers un bout de chemin, un ailleurs, une communauté un peu étrange qui va nous transporter. Et voilà, je me demandais ce que tu avais voulu offrir aux lecteurs, et ici là à des lecteurs encore jeunes, hein, pas petits évidemment, je veux pas vous avec ce livre là. Donc je te lis ce petit bout. À l'autre bout du pays, au moment où Émilie perdait son enfant, la terre d'une petite ville se mit à vibrer. Au-delà de ses frontières, personne ne ressentit quoi que ce soit. Aucun signal ne se dessina sur le moindre écran de sismologue. Aucun journal télévisé ne relata l'événement. Seuls les habitants de la communauté éprouvèrent le tremblement. Au bout d'une longue route que peu de gens connaissaient et qu'encore moins utilisaient, un spectacle étrange se produisait alors que la nuit était déjà bien avancée. Les hommes, les femmes, les vieux et les jeunes étaient tous réunis autour de leur église, le visage tourné vers l'océan, à observer les vagues qui s'abattaient sur la rive au même rythme que le battement de leur cœur. Boum, boum, boum. Leurs esprits se perdaient dans les vibrations de l'air, volaient dans les embruns de la mer, se mêlaient avec la voix douce et chaude qui les berçait sans employer de mots. L'arrivée de la nouvelle descendante était proche. Alors, où est-ce que tu nous les as emmenés, les lycéens, avec ce livre-là ?
Alors, au départ, je vais avouer la vérité, je ne pensais pas vraiment aux lycéens par rapport à l'écriture de ce roman. C'était déjà une surprise d'être dans la sélection, vu le thème du roman, donc autour de la stérilité, du couple. On est plus sur des personnages qui ont la trentaine. Donc voilà. Ensuite, par rapport à la question de la sélection... moi, je sais, enfin, j'avais entendu par des professeurs qu'on cherchait peut-être des histoires plus adultes avec des personnages plus âgés que d'habitude, donc ça me faisait assez plaisir. Ensuite, j'espère que les lycéens ont pu se projeter dans ces personnages un peu plus vieux, découvrir. C'est peut-être la découverte justement de difficultés qui ne les touchent pas encore à leur âge, qui peut peut-être être intéressant avec ce roman. Ensuite, au niveau de ma communauté, de l'église, des personnages qui se retrouvent donc dans cette ville de La Mare, c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'aime travailler et que je travaille toujours un peu sur tous mes romans, même quand je fais pas exprès. C'est les huis clos un peu ouverts, les endroits où tout le monde se connaît, les secrets que chacun cache. Donc c'est quelque chose qui se retrouvait dans Picoud et qui se retrouve dans La Mer des Eaux. Mais je sais pas si j'ai une transmission au niveau des lycéens comme Estelle, par exemple, ou même toi, sur justement l'histoire et sur ces personnages qui évoluent pour se transformer, en fait. J'ai pas une véritable transformation au niveau de mes personnages.
Non, mais je pense que de toute façon, voilà, les textes d'Estelle comme de Jean Laurent avec ce côté historique, forcément derrière il y a une réflexion sur notre propre histoire et un regard là-dessus. Après, que ce soit dans La Mer des Eaux ou dans Sim Survivor, il y a ce côté évasion et en utilisant le fantastique ou la SF aussi de proposer un regard sur aujourd'hui, mais voilà, peut-être plus dans le futur ou dans l'étrange, dans ce qui se passe derrière le rideau, au bout du chemin. Et voilà.
Non, mais totalement, totalement. C'est vrai que moi, mon roman joue beaucoup sur l'intime, donc sur les relations entre deux personnages. Il n'y a pas de grande histoire. Ça ne va pas aboutir sur quelque chose qui va changer l'histoire d'un peuple ou d'un univers. Mais de toute façon, moi, c'est toujours ce qui m'intéresse. Je suis toujours beaucoup plus intéressé par les relations entre deux personnages que sur tout un peuple. C'est, je rejoins peut-être Estelle sur les petites choses ou les petits personnages. C'est quelque chose qui me touche plus que l'évolution de toute une civilisation.
On retrouve ça aussi dans Sim Survivor avec deux personnages principaux. L'un qui est important, a priori, dans sa société, et l'autre pas du tout. Et surtout cette évasion dans un ailleurs très étrange. Alors, on est dans le futur et pour autant, ils vont débarquer dans un ailleurs encore plus étrange. Et du coup, j'ai choisi un petit passage pour qu'on rentre, qu'on aille se balader tout de suite dans cet univers-là. C'est le début du chapitre 4, les bio-boosters. Poussés par les gardes, les candidats s'engouffrèrent dans des cabines d'ascenseur, qui plongèrent à grande vitesse vers les étages inférieurs. Les portes s'ouvrirent sur une salle étrange, emplie d'une brume violette. « Venez jusqu'à moi !» lança une voix aiguë et chevrotante en provenance de l'un des bancs de brouillard. Bousculés par ceux qui les suivaient, Ambra et Sandro découvrirent, au milieu des nuées mauves, un être aussi fascinant que repoussant. De la taille d'un enfant de 10 ou 12 ans, la créature, vêtue d'une simple blouse argentée qui lui arrivait aux genoux, n'était pas symétrique. Deux bras, deux jambes, une tête, un tronc, mais là s'arrêtaient les ressemblances avec la plupart des êtres vivants. Les deux côtés de son corps semblaient provenir d'entités différentes, comme si quelqu'un, après avoir constaté qu'elles avaient une taille identique, avait collé ces deux moitiés dépareillées l'une à l'autre. À gauche, le demi-visage d'une gracile adolescente, cheveux blonds tressés, oreilles arrondies, œil bleu au regard langoureux, cils papillons, lèvres fines. À droite, une demi-face verdâtre, reptilienne, couverte de pustules. Oreilles en feuilles d'épinards, cheveux épars sur crâne lunaire, pupilles dilatées, cernées d'une gélatine jaunâtre. « Approchez !» répéta la créature d'une voix aigrelette. « N'ayez pas peur, je ne vais pas vous croquer. » Alors là, on est parti, on est loin, et en même temps, j'ai trouvé que ce passage était très intéressant parce qu'il y a cette double face de la jolie adolescente.
Oui, en réalité, on n'est pas si loin, c'est un archétype qui vient de très loin. C'est Gollum, en fait, hein, avec une face gentille, pitoyable, et puis une face affreuse. Mais c'est un peu ce qu'on va retrouver, en fait. C'est intéressant parce que c'est un personnage dont on parle très peu, qui apparaît pas beaucoup en fait, mais que j'aime bien, ouais, et qui représente aussi cette dualité qu'on retrouve dans le couple de personnages principaux, surtout au début où je voulais qu'il y ait des étincelles entre ces deux jeunes gens qui ont 17 et 18 ans donc, alors notamment Sandro, hein, qui ressemble un peu à ça en réalité. Sandro, je voulais que ce soit surtout pas un super héros calibré pour faire ce jeu très dangereux. Lui, ce qu'il adore, c'est passer des bonnes soirées. Comme il a de l'argent, c'est encore plus facile. Il adore le confort, il adore draguer les filles, tout ça. Voilà, ça lui convient très bien. Néanmoins, dès le début, on sent qu'il s'ennuie un petit peu. Il a tout ce qu'il faut matériellement, mais il sait pas trop quoi faire de sa vie, en fait. Et il se rend compte qu'il est lui-même dans une impasse. Et il va se retrouver. Alors là, il va y avoir une évolution. Mais très rapide, puisqu'il est plongé. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans les histoires que j'écris. C'est quand on prend des personnages comme nous, en fait, hein, puisque finalement, on ressemble peut-être plus à Sandro qu'à des super-héros. Je pense qu'on serait tous terrifiés de se retrouver dans un jeu, mettons Hunger Games, si on nous jetait là-dedans. Je pense qu'on serait tous terrifiés. On essaierait de se cacher quelque part, quoi. On ferait pas comme Katniss à courir partout avec un arc. Et donc, lui, voilà, c'est un étudiant. Qui a de l'argent assez standard et qui va tomber de haut, puisqu'il va même être humilié, etc., dès le début. Hein. sans, avec ce doute, est-ce que c'est une simulation, mais en même temps une simulation que tout le monde peut voir, donc c'est pas tout à fait anodin, ou alors pire que tout, est-ce que c'est la réalité, puisqu'ils sont à une époque où, dans quelques décennies sans doute, où on ne peut plus vraiment distinguer l'un de l'autre. Alors il y a des petits trucs hein, pour savoir si on est dans une simulation, mais en tout cas lui il n'arrive pas vraiment à deviner la réalité. Alors, je vais pas tout dire, mais en fait, ça peut être très dangereux pour lui. Et donc, il n'est pas fait pour ça et il va devoir évoluer très vite. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on évolue dans une situation d'extrême tension ? Est-ce qu'on va être prêt à tout, et ça le tente, pour en sortir, c'est-à-dire y compris à trahir tous les gens qu'on peut trahir, à renier sa parole, à être lâche pour pouvoir survivre ? Ou est-ce que on va changer et finalement, parce qu'il va être aussi fasciné par cette jeune fille qui, elle, est un peu plus jeune que lui, mais a une vie difficile et a un esprit assez rebelle. Il va être assez fasciné par cette fille qui, elle, sait justement quoi faire de sa vie. Elle a choisi un objectif et lui, pas du tout. Donc où est-ce qu'il va il va finalement subir son influence et s'améliorer et devenir meilleur. C'est ça qui m'intéressait vraiment beaucoup et je pense qu'en fait c'est ce qui nous concerne tous quand on a j'ai raté le début du débat mais quand on a cet âge-là, c'est bon même adulte après on peut se poser souvent ce genre de questions hein, qu'est-ce qu'on fait comme choix et est-ce qu'on choisit le plus facile mais en même temps qui est pas forcément idéal pour l'entourage ou est-ce qu'on choisit d'aller de l'avant, voilà. Bon, je ne dis pas tout, mais c'est le choix qui est important.
Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, en vous écoutant tous, on voit la cohérence de la sélection. Vous avez des univers différents, vous proposez des choses vraiment très différentes les uns les autres, mais c'est cohérent. Il me semble que ce sont des livres qui s'adressent très bien à vous, jeunes gens, dans ce qu'ils ont d'humain, dans vraiment une description de l'humanité qui est touchante, même quand ce sont des personnages plus âgés.
Juste pour dire, tu parlais de science-fiction qui est dans le... et ça se déroule dans le futur. En réalité, c'est un prétexte, hein, la science-fiction. C'est évidemment pour parler de choses qui se déroulent aujourd'hui et du présent. La confusion réalité virtuelle, c'est déjà le cas aujourd'hui. Hein.
Oui, je crois que de toute façon, que pour chacun d'entre vous, même dans des choses vraiment variées, on retrouve cet amour, cette tendresse pour des personnages et leur évolution. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous a touché, vous, dans vos lectures cette année. Voilà. Alors après, moi, je pensais sur le temps qu'on a, parce qu'on n'a pas énormément de temps pour leur poser plein de questions. J'avais bien envie de vous demander concrètement comment vous avez vécu déjà l'écriture de ces livres-là. Et puis, alors la question habituelle qu'on vous pose, c'est mais d'où vient l'inspiration ? Et voilà. Alors je vais pas vous la faire directement. Je vais plutôt vous demander comment ça a fonctionné concrètement sur ces livres-là en termes d'écriture. C'est des choses qui étaient en germe depuis longtemps. Ça a été des écritures rapides. Et qu'est-ce que la sélection et le fait d'être là aujourd'hui pour pouvoir en parler confirme dans le choix d'avoir écrit ces livres, ce livre-là particulièrement pour chacun de vous.
En fait, on va peut-être faire, si je peux. Ouais, ça va être plus facile, je pense. Donc, pour moi, c'est un projet, Les Seigneurs de Boën, que je portais depuis pas mal de temps et que je pensais porter dans ma tête depuis pour encore pas mal de temps. Il est né, il a plusieurs sources. Il est né il y a quelques années, un matin sur la côte atlantique, sur la plage après une grande tempête. Et j'aime bien le matin sur la côte atlantique l'été parce que c'est là où il n'y a pas encore trop de monde. Et donc on peut vraiment avoir l'océan pour soi tout seul, ou presque. Il faut le partager avec un ou deux joggeurs, mais ça va. Et donc, j'allais me promener sur cet océan après cette tempête. Très exactement, j'allais rendre un parapluie qu'on m'avait prêté. Et là, j'ai vraiment vu Maëve, le personnage Balassène, en fait, que tu as lu. Donc, c'était un choix qui était un super choix. Merci. Et j'ai vu avancer cette fille sur la plage avec le sel qui naissait sous ses pas. Je l'ai vu donc avancer vers cette digue où il y avait cette... Donc Lantane, la magicienne dont on parle, donc il y avait une super belle magicienne en rouge, très glamour, qui repoussait les vagues, qui repoussait les tempêtes. Et déjà, je savais que ça allait pas être l'histoire de la magicienne glamour, que ça allait être l'histoire de l'autre, que ça allait être celle de Maëve. Et j'ai commencé à me demander quelle était son histoire. Et puis aussi, donc, j'avais l'idée de cet escrimeur errant qui porte une cicatrice en forme d'étoile sur son crâne et qui est persuadé que c'est un monstre qui lui parle et le monstre lui répond. Donc voilà, j'avais ces images-là. Et en même temps, j'avais envie aussi, et puis peut-être parce que c'était l'été, tout ça, d'écrire un roman de fantasy comme ce que moi j'aime lire sur la plage. Alors oui, je sais, c'est un gros pavé de fantasy sombre, mais c'est ce que j'aime lire sur la plage l'été, enfin quand j'avais le temps de lire. Et voilà, c'est vraiment parti de là, de ces envies-là. J'ai laissé l'histoire tourner dans ma tête. Je savais assez vite que ça allait être dans un monde tournant Moyen-Âge Renaissance, parce que j'aime beaucoup les moments où on voit changer le monde, que ça allait être dans des ambiances slaves pour plein de raisons, des souvenirs de voyage dans ces régions-là aussi, des mythes de ces régions-là qui m'avaient beaucoup inspirée. Donc j'ai commencé à faire des recherches historiques, à prendre plein de notes, à tester la rapière pour Sainte-Étoile. Et puis, donc, il y a maintenant 3 ans, je me retrouve à la même place que Jean-Laurent aujourd'hui, c'est-à-dire coup de cœur des Imaginales. Donc c'est à la fois hyper génial et hyper crevant, mais sans se rendre compte qu'après, en fait, hein, tu vas voir lundi, tu vas morfler. Et un soir, donc, complètement extatique, parce que j'étais coup de cœur des Imaginales, je me retrouve à parler avec un ami auteur. Et on parle de nos projets incasables. Donc moi, je lui dis, j'ai cette idée de pavé de fantaisie dans la tête, mais ça va être toute la fin d'un empire, je ne veux pas le couper. C'est pas les héros traditionnels de fantaisie, je ne sais pas du tout où je pourrais caser ça. Parce que les éditeurs avec qui je travaillais, je ne les voyais vraiment pas publier ça. Là, on en avait un peu parlé, ce n'était pas pour lui. Et c'est normal, hein, je veux dire, chacun a des lignes éditoriales. Et là, donc, l'auteur en question, donc Thomas Géa, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sous la bulle du livre, me dit, bah, écoute, il y a critique, mon éditeur, il cherche exactement ça. Mais je lui dis, mais il n'en publie pas. Bah oui, mais il n'en publie pas parce qu'en fait, on ne lui en envoie pas. Donc, je lui dis, bah, très bien, dans ce cas-là, je vais présenter mon projet à critique. Et il se trouve que 10 jours après, j'étais en dédicace dans la librairie de critique, qui est un libraire en plus d'être auteur. Et là, j'arrive un peu en avance pour ma dédicace. Et donc, Thomas me dit, avec beaucoup de gentillesse, bah, écoute, il y a Simon et Eric, les 2 éditeurs, qui t'attendent au café, donc tu vas leur raconter ton histoire. Voilà. Donc c'était bien, un petit peu prise par surprise. Moment de trac, je me retrouve au café avec Simon et Eric. Donc je commence par faire ce que je fais hélas quand je suis un peu traqueuse, c'est-à-dire de l'humour nul. Et donc je leur dis, bon bah, je vais présenter mon histoire, et c'est une histoire chorale, et je vais commencer par vous présenter le personnage le plus âgé parce que j'aime les vieux. Voilà. Donc au moins je me suis dit, ça y est... Ah non. Donc je me suis dit, ça y est, de toute manière, je me suis tapé la honte. Maintenant, je peux faire que mieux dans la suite du pitch. Et donc, j'ai commencé à leur raconter Bohène et on a travaillé ensemble. Et vraiment, j'ai signé dans le mois qui a suivi. Et j'ai adoré travailler avec Critique. Là, on est reparti pour un deuxième. Et vraiment, j'étais pas sûre d'avoir encore les épaules en tant qu'auteur pour me lancer dans un projet aussi vaste. J'avais donc tous mes cahiers, j'avais fait des grands plans de toutes les histoires entrecroisées que j'ai pas du tout suivies, bien sûr. Et Simon, donc mon éditeur vraiment qui travaille avec moi chez Critique, m'a beaucoup soutenue, m'a aidée à pousser plus loin certaines lignes d'histoire. En fait, il a cru que je pouvais le faire à une époque où moi j'y croyais pas, où je me disais c'est trop tôt, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez de métier. Et comme il y a cru, bah, je me suis dit quand même, lui, il a de l'expérience. Donc s'il y croit, c'est qu'il a peut-être un peu raison, je vais tester, quoi. Bah, quand on parlait d'essayer, voilà. Je me suis dit, je vais peut-être pas y arriver, mais si j'y arrive pas, il va me le dire. Il va pas quand même se lancer en publier un pavé si c'est pas bon, quoi. Enfin, en tout cas, si c'est pas assez bon. Et vraiment, donc, il m'a beaucoup poussé à donner encore plus d'ampleur aux scènes, notamment toute la grande bataille finale dans Cernat-Tchernik. On l'a beaucoup retravaillé ensemble. Et j'ai passé la fin de l'écriture dans un état à moitié second, donc j'écris beaucoup la nuit, parce que le jour, je suis très sensible aux sollicitations extérieures, c'est-à-dire les gens qui m'appellent, les gens qui me proposent une balade et tout, je ne suis pas du tout une auteure sérieuse. Et au moins, la nuit, je suis vraiment dans ma bulle, je peux complètement m'immerger dans mon univers. Donc je l'ai fini de l'écrire, c'était au mois d'août. Les nuits étaient très courtes en plus, donc je commençais, c'était pas encore le crépuscule, je finissais, le jour était levé depuis longtemps. Donc mon copain lui avait des horaires de travail normaux, donc en gros il se levait, on prenait le petit déjeuner ensemble, c'était très romantique. Enfin, je ressemblais à un zombie, mais à part ça c'était romantique. Et il y a une scène, je vais pas dire laquelle, mais il y a une scène, il y a la mort d'un personnage qui était très dur pour moi à écrire parce que j'avais pas envie qu'il meure, mais c'était essentiel à l'histoire, il pouvait pas survivre. Et donc je suis arrivée à cette scène là vers, en gros, je crois que c'était vers le 15 août, un peu avant ou un peu après. Et là, je me souviens, c'est la première fois que je me mettais dans un état comme ça pour écrire cette scène. J'avais essayé de reculer le moment et tout. Et c'était à l'aube, et l'aube se levait. Puis là, j'ai décidé qu'il fallait que j'y aille et qu'il fallait que j'aille faire mourir Bip. Je pense que...
C'est original, Bip.
Ouais, Bip, voilà. Et donc, j'ai écrit la scène où il mourait. En plus, je savais comment il allait mourir et c'était pas de manière super sympa, hein, pour ceux qui voient à peu près de qui il s'agit. Et donc, quand j'ai fini la scène, mon copain s'est levé et moi, j'étais dans un état second, à moitié en larmes. Et puis, je lui ai dit, j'ai tué Bip. Et après, j'ai pas réussi à dormir de la journée. Je me suis fait une insomnie de jour, ce qui m'arrive quasiment jamais. Et donc, après, quand même, j'ai pris une journée de pause et puis j'ai terminé le roman ensuite.
Merci pour l'histoire de cette histoire. Alors du coup, oui, qui a envie de raconter Jean-Laurent ? Donc Jean-Laurent, on a un code couleur, vous voyez, comme c'est le coup de cœur, lui il est en blanc, les autres on est en bleu. Ouais. Et tu nous as dit un petit peu tout à l'heure que voilà, Boudica, c'était pas spécialement prévu, et puis ce personnage t'a intéressé. C'est quoi la petite histoire de la grande histoire du roman ?
Alors moi j'étais parti sur un autre roman, Coral, qui est mon prochain roman, qui sera sur la guerre de sécession américaine, un roman fantastique, donc pareil. Et là je me suis rendu compte de deux choses. D'une part, le projet est ambitieux, voilà, est très lourd. Et puis j'avais envie de me confronter, je me rends compte qu'il fallait que je me confronte aux armes d'écrivain, c'est-à-dire repartir après un premier roman, sur un roman, sur une recherche historique aussi lourde, sur une ambition d'écriture. C'est un roman choral, le prochain, mais complètement déstructuré, voilà, sur qui retrace 4 années complètes. Voilà, il y a quelque chose de très ambitieux. Et là, je me suis rendu compte, bon, on va redescendre l'ambition et on va travailler sur un roman plus simple, avec un début, une fin, parce que Royaume de vent et de colère, mon premier, pareil, a un montage un peu singulier. Et j'ai dit, ben, on va faire comme tout le monde, on va pas choisir la facilité. C'était compliqué pour moi d'écrire un simple roman entre guillemets linéaire, avec chronologique. Faisons ça. Et j'étais tombé sur un article sur Boudica, sur Boadicée. Et j'ai dit, voilà, c'est incroyable de pas mettre en avant ce personnage. Et j'ai dit, il y a de quoi en faire un roman sans hésiter. Et voilà, ça a été pour le choix de l'écriture. Après, j'ai une énorme chance, mon éditeur, les éditions ActuSF et Jérôme Vincent, que je remercie ici, c'est qu'il ne m'a pas mis de pression, donc j'ai pu avoir le délai nécessaire pour développer ça. Et surtout, il m'a fait confiance sur le manuscrit. Il m'a dit, ok, bon, j'attendrai le manuscrit final pour t'accompagner. Et moi, je travaille avec un groupe de relecteurs. Donc j'ai cherché mon groupe de relecteurs et technique et historique par rapport à Boudica, parce que le Celtic, je n'y connais rien. Je me rends compte que c'est compliqué, je me replonge dans des textes latins je fais le premier jet de Boudica, et qui est effectivement ça. Tu disais, Estelle, tu avais une image et tu voulais te dire, mais quelle est l'histoire de ce personnage ? Boudica, historiquement, on connaît la fin de son histoire. On voit à peu près quand elle apparaît qu'elle doit avoir entre 20 et 25 ans. Mais qui est-elle de 0 à 25 ans ? On ne sait pas. Donc il y a quand même un enjeu très fort qui est de dire, mais qui est ce personnage ? Comment il va devenir 20 siècles plus tard, la légende ou le personnage historique qui est resté jusqu'à nous et qui est resté jusque dans les mémoires romaines. Donc il y a ce travail-là qui est fait avec une contrainte qui est la contrainte historique et la réalité. Et pour la petite histoire, je soumets toujours mon premier manuscrit, mon premier jet, qui est une ébauche, hein, qui est ça pourrait être l'équivalent d'un croquis pour un illustrateur, à mon relecteur technique, un archéologue d'époque, donc qui s'appelait Gwendal Gwegen, que je remercie ici, et qui m'a fait une relecture pas à pas pour me dire, voilà, il a fait une relecture complète, on a passé des heures de Skype pour faire le point sur le manuscrit, en me disant ça c'est bon, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Et de façon indirecte, à un moment il me dit, voilà, ce passage-là, je sais que ça va être compliqué, c'est un peu une approche centrale sur ton roman, mais historiquement je peux pas te la valider, tout ça c'est pas bon. Donc grosso modo, la première version du manuscrit historiquement avait des éléments erronés qui m'a nécessité de remanier complètement le manuscrit. Donc ça c'est intéressant, je trouve, on n'en parle pas beaucoup forcément des coulisses de l'écriture. J'ai eu des relecteurs qui m'ont dit, c'est pas possible, si tu veux faire quelque chose d'historique, il faut tout reprendre. Donc la version de Boudica qui est arrivée là, qui a été après revalidée, même si elle a été un peu retravaillée, c'est un deuxième jet. Le premier jet a été refusé, entre guillemets.
Eh ben... Donc, vous voyez, connaître le latin, l'histoire, aller se balader à la plage. Et Rod, alors, dans la cuisine, comment c'est arrivé, cette mer des eaux ?
Avec une casserole, quelques aliments, voilà. Alors moi, pour La mer des eaux, il y avait plusieurs thèmes que je voulais aborder au départ. Je voulais travailler sur l'obsession, la stérilité et la religion. Donc c'est surtout la transmission et la religion, c'était déjà revenu sur mon premier roman. Et là, justement, je voulais travailler sur l'impossibilité de transmettre, ce qui est le cas de mon héroïne principale, ce qui, pour le coup, la rend obsédée par ça. Et ce que je voulais, c'est aussi que cette femme qui est complètement désespérée pour avoir un enfant, à un moment donné, il y a un élément fantastique qui rentre en compte et qui lui permette, bien sûr, de pouvoir accéder à son rêve. Et comme à chaque fois dans mon petit circuit d'écriture, rien n'est gratuit, il y a toujours un prix à payer. Ensuite, normalement, j'avais que deux personnages, j'avais vraiment l'histoire du couple, c'était vraiment une histoire entre les deux. Et puis au fur et à mesure, avec la divinité qui dirige la petite ville de Louisiane, de Lamar, au départ, elle était un peu caricaturale, donc c'était entre guillemets la grande méchante. Et à un moment donné, j'ai écrit une scène sur elle qui était dans la mer, qui observait au loin, et on savait pas exactement ce qu'elle voyait, mais on la sentait assez mélancolique. Et à partir de là, j'ai voulu aussi lui donner une histoire à cette déesse, et à savoir comment elle était devenue déesse, creuser tout ce sujet. Et du coup, ça m'a fait ma deuxième partie de roman où on remonte bien en arrière sur son histoire à elle. Donc voilà, c'est un texte assez féminin, je pense, par rapport aux thématiques, que ce soit par rapport à la thématique de la stérilité d'Émilie, mais aussi par rapport au combat de cette déesse et comment elle a évolué vers, on va dire, un peu quand même la méchanceté. Mais c'est toujours important pour moi de faire des personnages qui sont gris, ni bons, ni mauvais. Les mauvais ont des excuses pour être mauvais, les gentils ne sont pas si gentils que ça. Et puis j'ai construit mon roman là-dessus. Mais de toute façon, à la base, dans mes romans, c'est que je pars de personnages qui ont des difficultés, et je vois au fur et à mesure ce qu'ils doivent vivre pour avancer dans leur vie. Donc ça se finit pas toujours bien, mais en tout cas, ils avancent.
J'avais juste une petite question. Lamar existe ?
Non, Lamar n'existe pas.
Ça me rassure un peu.
non, parce que dans mes romans, généralement, enfin, que ce soit Picoud ou Lamar, ces villes n'existent pas, mais tout ce qui est autour existe. Donc, choisis des endroits sur les cartes où il n'y a absolument rien. Je me dis, là, ça pourrait exister, et puis je crée ma ville.
Et ton éditeur te paye le voyage ou non ?
Du tout, mais il faudrait que je lui en parle.
Et Loïc, alors, c'est quoi l'histoire d'avant l'histoire ? Comment est-ce que Sim Survivor est né ?
C'est souvent, je me rends compte après coup que c'est souvent un peu comme un puzzle. Il y a différents éléments qui s'assemblent et puis on ne sait pas trop d'où ça vient. Alors en y réfléchissant, là, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, je voulais imaginer un monde réel qui a été créé pour faire croire que c'était un monde virtuel. Alors qu'en général, c'est l'inverse. On crée un monde virtuel en essayant de ressembler à la réalité. Mais là, effectivement, comme il y a des concurrents qui meurent, c'est pas très bien de dire à tout le monde qu'on les tue, en fait. Donc, on va faire croire que c'est un monde virtuel. Mais comment créer des créatures réelles dans un monde, disons, d'ici 30-40 ans ? Alors, j'ai vu une imprimante 3D fonctionner à un moment, en train de créer un objet en plastique, une créature d'ailleurs, en plastique. Et puis, ma sœur, elle travaille sur la création de tissus organiques à l'hôpital Cachon à Paris, artificiels, qui vont permettre, par exemple, d'aider les gens qui sont victimes de graves brûlures. Et voilà, les deux ont fusionné. Je me suis dit, tiens, avec une imprimante 3D et des tissus artificiels, dans 40 ans, on pourra peut-être créer des membres ou autre chose. Et donc, n'importe quelle créature en greffant un cerveau artificiel. Donc là, j'avais l'univers. Ce personnage de Sandro, il y a longtemps que je l'avais dans le crâne aussi. Un étudiant, on en connaît tous un petit peu, hein, un peu flambeur, un peu frimeur. Qui vivent dans un milieu assez aisé, qui emboîtent, claquent beaucoup d'argent pour impressionner tout le monde, et qui n'ont pas du tout envie de vivre une aventure. Donc voilà, ce personnage, je l'avais dans le crâne depuis un moment. Et en réalité, quand même, le déclencheur principal, alors c'est souvent mes filles. J'avoue que un livre sur deux, je l'écris pour mes filles. Alors parfois, c'est des commandes. Et puis, si ça plaît à d'autres personnes, c'est parfait. Il y en a une actuellement qui a 15 ans et l'autre 18. Donc, elles étaient un peu plus jeunes à ce moment-là. Et elles m'avaient dit, écoute, j'ai adoré Hunger Games. Tu pourrais pas écrire une histoire qui me rappellerait un petit peu ça? Donc, je l'ai lu, Hunger Games. Alors, c'est un piège affreux, hein, ça, parce que évidemment, on peut pas plagier. Donc, mais j'avais ce personnage de Sandro qui lui était original et n'était pas du tout compris dans Hunger Games. Et en fait, je suis remonté aussi à l'origine de ces histoires de jeux mortels, Et en fait, Hunger Games, c'est pas elle qui a inventé ce procédé. Il y en a eu d'autres. Stephen King en a fait déjà dans les années 80. Et en fait, on peut même remonter à un premier film français, et je m'en suis pas mal inspiré, qui s'appelle Le Prix du danger, avec Michel Piccoli en présentateur. Alors, on le retrouve dans le bouquin quasiment tel quel. Hein. Le présentateur, je l'aime bien. Il est un peu tout fou. Il se démonte jamais. Quand il y a un mort, il repart. Et si vous trouvez ce film, Le Prix du danger, vous allez voir beaucoup de points communs avec Sim Survivor. En fait, j'ai voulu revenir à cette origine et à ce... Ce présentateur, en fait, valide tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les jeux de télé à réalité. Alors évidemment, ça va pas jusqu'à la mort de personne. Quoi qu'il peut y avoir des dommages collatéraux, on l'a déjà vu, psychologiques, très importants. Mais en tout cas, pour de l'argent, pour du jeu, pour distraire les foules, voilà, jusqu'où on était prêt à aller. Mais en fait, donc, souvent, c'est mes filles qui sont à la base de mes histoires. J'ai même commis une série de 12 tomes avec des poneys qui volent. C'est ce qui m'a rapporté le plus d'argent. Et c'est une idée à 100% de mes filles. Au 12e tome, j'ai arrêté parce qu'elles avaient grandi et j'en pouvais plus des poneys qui volaient. Mais ça m'a été bien utile. Pour ma vie de tous les jours.
Ouais, on te remercie de l'avoir fait, parce que du coup, on n'a pas besoin d'écrire sur les poneys qui volent pour nos propres enfants. Donc, on peut leur filer tes livres. Merci. Bon, mais le temps passe super vite. Il nous reste une dizaine de minutes. Et peut-être que vous avez aussi des choses, des questions que vous n'avez pas pu leur poser si vous ne les rencontrez pas directement. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment posé question, là, vous qui avez lu toute l'année leurs livres? Je continue à poser pour vous. Ouais. Alors, je la redis à voix haute au cas où vous n'auriez pas entendu. Donc, Loïc, pourquoi est-ce que tous les personnages meurent sauf les personnages principaux?
Bon, alors là, c'est bien spoilé pour ceux qui ne l'ont pas lu.
Dommage.
Mais oui, non, mais c'est une bonne question. J'ai hésité avec Ambra quand même. Ça se voit hein, que j'ai hésité parce qu'elle est quand même bien amochée. Mais je l'ai gardée en réserve pour éventuellement une suite. J'ai écrit un scénario, hein, mais on ne sait pas trop comment elle va s'en tirer, hein, puisqu'elle est. On comprend qu'elle aura des graves séquelles physiques. C'est un peu le principe de ce type d'histoire, hein. C'est que effectivement il doit y avoir beaucoup de morts. J'ai fait beaucoup d'histoires aussi où l'un ou voire les deux héros meurent à la fin. Donc pour une fois, je les ai gardés en vie. Mais j'ai bien hésité avec Ambra. Ouais. Je ne savais pas moi-même jusqu'à la fin du récit. Je fais des ébauches de scénarios souvent jusqu'à la moitié à peu près du récit. Je me garde bien d'aller jusqu'au bout parce que j'aime bien avoir la surprise moi-même. Ben, j'ai pas osé faire ce qu'Estelle a fait. Et je sentais bien que ça m'est arrivé de tuer des personnages. Et c'est vrai que c'est très éprouvant parfois quand on s'y attache beaucoup. J'ai une histoire, Je suis ta nuit, où c'est 6 gamins qui sont aux prises avec un... On ne sait pas trop si c'est une créature ou un tueur en série, ou les deux mélangés. Et à la moitié du récit, je m'ennuie un petit peu. Donc c'est mauvais signe. Hein. Ça faisait un peu un pastiche de Stephen King. Alors, je suis revenu en arrière, puis j'en ai tué 3. Mais j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. C'est affreux, quoi, de tuer 3 gamins. Et donc là, bah, j'ai pas fait.
C'est, voilà, donc les auteurs ne sont pas des psychopathes. Ils sont obligés de tuer les personnages. Alors, je me permets une digression. J.K. Rowling, elle a dit comme ça qu'elle trouvait que imaginer ces choses-là et les écrire, c'était toujours mieux que les garder enfermées en fait, dans sa tête, parce que si on les garde enfermées, c'est là vraiment que ça fait peur. Alors que quand on arrive à les sortir, à les écrire, ça met une certaine distance peut-être.
Je suis totalement d'accord avec ce genre de choses, hein. Moi qui suis censé écrire des histoires qui font un peu peur, c'est vraiment parce que je suis un gros flippé en général dans la vie, que je m'imagine beaucoup de choses qui n'existent pas, et il suffit de m'enfermer dans un nouveau lieu et de me faire passer une nuit tout seul en pleine campagne et j'arrive pas à dormir de la nuit. Et donc justement je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Pour moi, ça permet de sortir les peurs actuelles pour laisser de la place aux prochaines. Mais bon, ça s'arrête jamais pour le coup.
C'est bien, ça te fait toujours des sujets de romans comme ça, tu vois, voilà, t'es sûr d'en avoir. Oui, Pour moi aussi, il y a vraiment, je parle de la rencontre précédente, les choses sombres que je vois arriver autour de moi ou qui m'arrivent ou qui arrivent à des proches par moment, j'essaye de les mettre sous des formes évidemment qui n'ont plus rien à voir, mais de les transformer, de les transcender aussi dans mes histoires ou les choses qui me révoltent ou qui me chagrinent ou qui m'attristent dans le monde. Quelque part, j'ai l'impression qu'aussi les mettre dans des histoires, ça fait une sorte de processus chimique ou alchimique qui, à partir de quelque chose de sombre, permet de faire une histoire pas forcément joyeuse, mais au moins de les transformer en quelque chose de positif, même si c'est une histoire sombre, parce qu'une histoire, ça a toujours une existence en soi, et une bonne histoire, ça vaut toujours la peine d'être racontée. Après, j'espère que c'est de bonnes histoires.
Je crois que c'était l'intérêt de cette sélection, hein, c'était de vous secouer peut-être un petit peu, de vous amener vers une littérature qui n'est pas spécifiquement écrite pour vous et qui peut concerner aussi des gens plus âgés et puis qui vous a permis peut-être de découvrir des styles, des univers différents. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous aviez envie de demander aux auteurs ? Ouais.
Alors non, je ne suis pas rentré dans la petite cuisine interne tout à l'heure, mais ça a été compliqué de sortir ce roman, en fait. Le mien était beaucoup plus long. La première version, on disait que c'est pas toujours la bonne, c'est jamais la bonne pour moi, la première version. C'était assez compliqué, elle devait sortir aux éditions du Seuil. Elle a été acceptée en 2 volumes, donc déjà beaucoup plus longue. Donc. Et puis le directeur était sur le départ, c'est souvent comme ça que ça se passe. Le contrat était sur le point d'être signé, il est parti, les projets annulés, puis en fait finalement il n'est jamais parti d'ailleurs, mais il était sur le départ. Et puis du coup j'ai cherché un autre éditeur, puisque ça s'était décalé à un délai indéfini, et puis je suis tombé sur les éditions Scrinéo, que je ne connaissais pas, et qui m'ont proposé de le sortir, mais en un volume. Et il a donc fallu, j'enlève à peu près 30% du récit. Forcément, il y a beaucoup d'éléments qui sont partis. Et j'ai choisi avec lui de me concentrer sur l'action pure et les personnages principaux. Et d'enlever effectivement beaucoup d'éléments du contexte. Sachant aussi que quand même ce type de jeu, là, on l'a beaucoup vu avec le contexte qui est très détaillé dans certains romans, dans certains films. Donc c'est un milieu qui est assez familier pour, je pense, les lecteurs qui rentrent dans un type d'histoire. Enfin, en tout cas, qui choisissent spontanément de prendre cette histoire et d'entrer dedans. Mais oui, j'ai beaucoup de background, comme on dit, de scènes en réserve. Je les ai pas gardées pour des suites, puisqu'elles ne serviront pas, en fait. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour, il y aura une édition longue qui sortira. Mais il faut être Stephen King pour ça.
Ou un tome 2.
Mais je suis assez d'accord, oui, sur l'analyse. Moi, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus long. Ouais.
Encore une question, peut-être ? Non ? Bon, alors, je suis contente. Moi, j'ai... En fait, pour vous faire plaisir... je n'ai lu que vos livres, j'ai pas lu la lauréate. Et donc je sais pas, moi j'ai adoré cette sélection dans sa variété, dans son intérêt global. Vraiment, je trouve que c'est ouvert sur plein de genres différents, ça c'est vraiment intéressant. Et vous êtes content, vous vous sentez bien à votre place là après vous être écoutés les uns les autres. Vous comprenez pourquoi vous êtes là en fait ensemble.
Oui, mais surtout d'autant plus. Alors, je parle pour moi, hein, je n'ai pas encore lu tous les livres de mes collègues, mais effectivement, on est sur des. Même si moi j'étais aussi un peu comme Rod surpris d'être dans le prix des lycéens, en discutant là tout de suite et maintenant, je comprends effectivement que les thématiques, les problématiques, en fait, elles collaient parfaitement. Le jury a fait un très beau travail effectivement de repérer ces romans là. Ouais, je pense qu'on est tous et sur université et sur des thématiques qui sont bien là où elles sont. Donc merci encore.
Moi j'étais pas à la sélection, alors je leur dirai.
Oui, puis ce que j'ai bien aimé dans cette sélection, mais dès l'entrée, dès que je l'ai vue, c'est qu'elle représente vraiment la diversité des littératures de l'imaginaire en France. Et l'originalité de nos littératures aussi. C'est-à-dire, quand on parle à des gens qui ne connaissent pas la fantaisie, ils disent en gros, oui, c'est les trucs avec les orques et les boules de feu. Vraiment, j'entends encore ça de nos jours. Et là, on voit vraiment toute cette diversité, tous les thèmes qu'on traite, toutes les zones sombres dans lesquelles on va aller, mais aussi lumineuses et tout. Et je trouve que ça représente pas mal ça. Et finalement, une bonne histoire, c'est avant tout une bonne histoire. Quelle que soit la tranche d'âge des lecteurs, je veux dire, une fois qu'on lit des gros romans, quoi. Parce que bon, d'accord, quand on en est, quand on a 6 ans et qu'on est aux premières lectures, a priori, je pense que de toute manière, les romans de la sélection, c'est un peu trop long. Et c'est pas tout à fait le bon genre de lecture. Mais avant tout, voilà, on essaye de raconter des bonnes histoires avec des bons personnages. Et ça traduit aussi ça, la sélection, quand même. Et voilà, c'est un bel aperçu, quelque part, aussi, de ce qu'on peut faire dans la littérature de l'imaginaire en France aujourd'hui.
Bon, ben on va peut-être terminer. De toute façon, je pense que vous n'avez pas fini de bosser parce qu'ils vont vous dédicacer des livres si vous avez envie. Alors, peut-être plutôt sous la bulle, je ne sais pas, ou ici, vous... Non, normalement, il n'y a rien juste après. Attends, je vais regarder. Non, maintenant, c'est l'heure de manger, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez rester assis si vous voulez, dédicacer. Il y a la petite table et tout. Merci à tout le monde.